prendre en main, sûr une fois de plus que vous étiez un être vivant réel, je me suis reglissée dans mon lit, imaginant un court moment que je dormais dans vos bras, ma joue sur votre épaule, votre chaleur mêlée à la mienne. Vous n'étiez pas là, mais j'ai redormi. Tout n'était pas pure imagination. J'aime bien San Francisco, moi aussi. Beaucoup même, et pas Los Angeles. Quelle bêtise si le film ne se fait pas. Espérons que si, qu'il se fera et se fera bien. Parlez-moi un peu d'Amanda. Comment va-t-elle? A-t-elle été contente de vous revoir? Il y a deux nuits, comme je buvais du scotch avec Botts et Olga, dans mon lupanar privé, on trouve maintenant du scotch à Paris à prix d'or, une jeune fleuriste, après une dispute avec son amoureux, a sauté dans la Seine, près de Saint-Michel. L'amoureux l'a contemplée médusée, tandis qu'un étudiant américain plongeait pour la sauver. Eh bien, tous deux sont morts. Le quartier surexcité juge l'américain, un type remarquable. Moralité, ne tentez jamais de sauver une femme qui se noie, sauf moi. Le boss qui a fait le dialogue du diable au corps est le frère aîné de notre boss à nous. Vous avez donc à peine menti. Je suis contente que vous aimiez ce film, car moi aussi. Au revoir mon amour, toute fatiguée d'avoir si mal dormi, dans la tristesse des dernières nuits, j'attends un bon sommeil sans cauchemar. S'il vous plaît, ne me haïssez pas de vous avoir demandé de télégraphier. C'était si affreux d'imaginer que vous aviez été tué par les Indiens. Quelquefois, ça m'effraie de prendre conscience que je vous aime à ce point. Nelson, Nelson, mon Nelson à moi, j'embrasse avec bonheur tout votre stupide visage. Ne mourrez pas, mon amour, et conservez-moi un nid au chaud dans votre cœur. Votre Simone.
On s'y croit, on voit Sinatra se débattre contre ses addictions, hein, c'est le sujet du film. Et il est batteur aussi,
ouais,
batteur de jazz dans le film. Hein. Alors on s'y croit, rien que la musique. Qui est de...
Alors la musique, elle est d'Elmer Bernstein.
Rien à voir avec Léonard. Et on disait hors micro, ça marque le début, hein, de l'utilisation de la musique de jazz en bande-son au cinéma.
Exactement. Alors, c'est la musique du film, donc, L'homme au bras d'or, voilà. Qui a été, le livre a été écrit, donc, par Nelson Algren.
Le film est d'Otto Preminger.
Voilà, tout à fait.
1955. Traduit en, enfin, la nouvelle a été traduite en français par un certain Boris Vian.
Ah.
Qui fera l'objet de notre prochaine émission.
Oh, comme
t'as vu comme je place.
Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc ce fameux Nelson, donc c'est un écrivain américain, juif et communiste. Donc là, il cumule les handicaps. Il est le premier écrivain à obtenir le National Book Award en 1950, donc avec ce roman, donc L'Homme au bras d'or. On lui doit également, par exemple, Un fils en Amérique, Où le matin se fait attendre, La rue chaude, qui est dédicacée à Simone de Beauvoir, ou encore Les chaussettes du diable. Et il a écrit aussi des recueils de nouvelles, des essais et autres publications.
Oui, un petit clin d'œil, il a écrit notamment A Walk on the White Side. Ça te rappelle peut-être quelqu'un. C'est le titre d'une chanson de Lou Reed.
Ah.
Voilà, je savais pas que ça venait de là. Non, c'est un sacré type, Nelson Algren. Là, il est issu des bas-fonds de Chicago. Il a été à la soupe populaire. Il était misérable, une enfance misérable. Fait plein de petits métiers. Il pratiquait la boxe. Et en faisant ces petits métiers, il a réussi à se payer des études qui lui ont permis d'être journaliste. Il y a quand même des gens qui ont une niaque remarquable.
Qu'en veulent, quand
même. Et après, il a fait découvrir à Beauvoir ce qu'était aussi l'autre face parfois des États-Unis, dans le quartier de Chicago, quelque peu sombre.
Alors, je vous propose d'écouter une autre lettre de
Nelson.
De Simone, voilà.
Ah, de Simone.
Lundi 23 février 1948. Mon cher provincial, Paris tout enneigé était merveilleux hier soir. Saint-Germain-des-Prés prenait des airs de petits villages aux calmes rues blanches. Les gros flocons y tombaient gaiement. L'éclairage jaune projetait d'immenses ombres. Hélas, c'est à moitié fondu, noir et sale maintenant. Le froid se supporte puisqu'on peut s'habiller chaudement et se chauffer. Rien de commun avec les terribles hivers de guerre où, j'en garde un vif souvenir, je ne quittais pas pour dormir mon pantalon de ski en laine, où nous traînions des chaussures percées et où partout régnait un froid de loup. Mon chéri, nous sommes le 23 février. Il y a un an exactement, je faisais votre connaissance. Alors, aussi il neigeait sur Chicago, je glissais sur le sol gelé et vous teniez mon bras le long du métro aérien. Vous rappelez-vous comme vous avez sournoisement tenté de me maintenir hors de votre vie en prétendant que j'avais composé un faux numéro au téléphone ? Mon acharnement m'a sauvée. Près de vous, je me suis sentie confortable, paisible, en confiance, sans soupçonner le moins du monde que vous étiez en train de me piéger traîtreusement, au point que je vous suivrai avec soumission jusqu'au lointain Guatemala. Je ne me doutais pas que du nouveau surviendrait dans ma vie. Je me sentais trop âgée. Si peu de choses valent réellement la peine qu'on s'en tracasse. Et voilà que vous m'avez donné une seconde jeunesse. Un merveilleux amour provincial devenu international. Tout s'est si admirablement arrangé, je m'en émerveille encore. Vous m'effrayez même un peu. Si vous êtes si astucieux, vous pourriez également me rendre très malheureuse. Peut-être la prudence exigerait-elle de ne pas courir cette chance, de ne pas retourner en Amérique. Je me pose la question. Mon chéri, il est minuit et la seule question que je me pose, la voici. Comment patienterai-je 2 mois encore avant de vous embrasser ? Quoi ? J'ai vécu 39 ans sans que dans mes nuits, vous ayez de place ? Ça paraissait facile. Pourquoi est-ce devenu si difficile ? Comprenez-vous ça ? Moi pas. Tout ce que je sais, c'est que vous me manquez d'un manque infernal. Pas exactement infernal, puisqu'en enfer, aucun espoir ne subsiste. Or, je n'espère pas. Je sais que vous, vous étendrez près de moi à nouveau. Nelson, j'ai un tel désir de vous. Je vous aime, mon mari à moi. J'ai eu ce matin votre lettre, puisque vous semblez vouloir à tout prix savoir quand votre grenouille vous tombera entre les mains. Disons qu'il y a de fortes chances pour que ce soit vers le 25 avril. Mon amie californienne m'assure qu'elle ne sera pas trop déçue si je ne la vois qu'en octobre. Alors je vais la laisser tomber, prendre 10 jours à New York pour récolter de l'argent et vous rejoindre. Je garde l'appréhension d'un changement et répugne à fixer des dates, mais en gros ça se décide. L'année prochaine, quand à votre tour vous viendrez me voir et que je vous demanderai quand je dois réserver des places pour Alger, vous verrez, vous déclarerez l'air désinvolte, j'arriverai quand je pourrai, soyez prête à me recevoir. Les photos pour mon passeport attendent, j'ai commandé divers habits pour flamber d'élégance. À dire la vérité, ces robes sont surtout destinées à l'Amérique du Sud. Pour vous, j'en ai prévu une que j'adore, non pas parce que je la porterai, mais parce que je l'ôterai. J'espère qu'elle vous plaira pour une robe de déshabillage. Oui, je connais Ebony, dont j'ai acheté un numéro à Harlem avec Wright l'an dernier, et que j'avais déjà parcouru avant à Paris. Mesrow y était photographié tout riant. J'écoutais l'orchestre de Don Redman, folle de joie de partir pour l'Amérique. ignorante de ce que ça signifiait pour moi, du nombre de nuits passées à soupirer et languir qui m'attendaient parce que je vous aurais rencontré. Mercredi, j'ai rendez-vous avec un érudit au musée ethnographique. Nous organiserons un splendide voyage, Guatemala, Mexique. Rien de notable, neige et ciel bleu, vie laborieuse de grenouilles. À la bibliothèque, je m'informe sur les multiples façons dont vous, ignobles hommes, nous avez opprimés, nous pauvres créatures féminines. Au revoir, baiser d'amour sans fin, mon bien-aimé, votre Simone.
Sacrée Simone, hein. Je note quand même qu'elle mettait une robe, non pas pour la porter, mais pour l'enlever.
Alors maintenant, on va passer à un tout autre écrivain, donc un peu plus ancien.
On remonte. Hein,
voilà, voilà. Donc auteur hein, d'une œuvre monstrueusement prolifique, captivante, mêlant théâtre et romain, mémoire et récit de voyage, inlassable épistolier, Alexandre Dumas, donc du également l'homme fut également l'homme des conquêtes, hein, celle du cœur et celle du corps des femmes. N'avait-il pas avoué, âgé de 20 ans à peine,
dans la femme qu'on aime est tout notre génie. Là, il n'y a pas d'équivoque.
Alors, donc, son destin, où se mêleront l'œuvre de chair et l'œuvre d'encre, en sera la parfaite illustration. Alors, comédienne en vue, célèbre cantatrice, femme du monde ou du demi-monde, femme de lettres en mêle de renommée, aristocrate esselée, jouvencelle dévergondée, ou tendron bien en chair, ce sont celles que nous retrouverons voilà, au cœur de cette passion amoureuse.
Oui, alors j'aime beaucoup quand tu dis tendron bien en chair. Parce que le tendron, c'est un morceau de viande chez le veau et le bœuf situé sur la paroi inférieure du thorax ou, deuxième sens, on parle de très jeunes filles qui sont à l'âge tendre, d'où
voilà.
Tendron.
Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir,
ah,
non
d'accord.
Pas comme un vulgaire bout de chair.
Ah, je comprends mieux.
Ah là 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 là. Donc, ben, du coup, je vous propose voilà, que, d'écouter donc une lettre qu'Alexandre Dumas a écrite à Mélanie Valdor, donc le 25 septembre 1827.
À toi, cher amour, à toi que je viens de quitter et que je vais revoir, à toi qui je pense et qui pense à moi. Oh, qu'il y a une grande douceur à ne pas séparer ses sentiments, à dire nous au lieu de je, à ne voir dans l'absence qu'une séparation matérielle qui ne désunit l'âme ni la pensée, à se retrouver comme on s'est quitté, à se quitter en s'aimant davantage encore, à être sûr de son avenir comme d'un passé, et à sourire de mépris en regardant chaque homme à qui l'on dit tout bas « tu ne peux rien sur nous ». Il y a là-dedans quelque chose de la sérénité et du pouvoir de Dieu. Oui, de Dieu, car je ne suis pas athée, quoi que tu en dises. Je ne deviendrai jamais, puisque l'athée, c'est celui qui ne croit en rien, et que si je cessais de croire en Dieu, je croirais encore en toi. Je n'ai pas eu le courage de ne point lire les quelques lignes que tu m'as écrites, et ce soir je me coucherai sans longues lettres. Voilà ce que c'est de faire prendre de mauvaises habitudes aux enfants. Ils sont malheureux lorsqu'on les sèvre. Tu as gâté Elisa et tu me gâtes aussi. Trouverons-nous ce soir un petit moment pour nous serrer la main, après que nos cœurs viennent de battre l'un sur l'autre? Pourrons-nous échanger une parole amie, lorsque nous venons d'épuiser tous les mots d'amour? Voilà nos jours du soleil et de l'ombre. Il ne faut donc pas se plaindre des demi-teintes. Adieu, cher amour. L'heure avance. Mon dîner, long comme ses apprêts, a été copieux comme un dîner de ministre. C'est un bonheur de t'écrire. Mais c'en est un plus grand de te voir. Il y a la même différence qu'entre te voir et t'embrasser, et qu'entre t'embrasser. N'aie pas peur, je ne pousserai pas plus loin la comparaison. Je crois que, depuis que je t'aime, je rougirai même loin de toi d'un mot hasardé. Oh oui, l'amour rend meilleur et si son effet est en raison de sa force, je dois être excellent. Adieu, cher ange. 1000 millions de baisers et de caresses sans nombre. et sans fin. Adieu ma Mélanie, dans 10 minutes je serai près de toi.
Alors Mélanie Waldor, c'est une femme de lettres, voilà. Donc elle a publié ses premiers poèmes dans la Psyché, une revue mensuelle qui accueille entre autres Nerval et Hugo. Elle publiera par la suite quelques romans, et sa rupture avec Dumas en 1831 est particulièrement violente. Elle est inconsolable et menace de se suicider.
Ah, il en a brisé des cœurs, ah, le voilà. Alexandre.
Affreux, affreux. Et donc, voici maintenant une brève missive que Dumas adresse à Marie Dorval le 26 novembre 1833.
Ma belle voisine, j'ai encore 2 heures d'ici à minuit à être seul et triste. Êtes-vous chez vous? Êtes-vous visible? Puis-je aller vous demander une tasse de thé? Je baise vos belles mains, n'ayant pas le droit d'aller plus haut ni plus bas.
Donc voilà, donc ça c'est une lettre assez courte, hein, mais
oui,
bon,
très, c'est ce qui est étonnant.
Explicite.
Oui, voilà.
Mais quant à l'attente d'Alexandre Dumas.
On sent bien qu'il y a une certaine attente. Mais moi, ce qui m'épate, notamment dans la lettre qui précède celle-ci, là, qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est que finalement, il écrivait des lettres, Dumas, et puis à la fin de la lettre, il dit « je vous rejoins dans 10 minutes, dans un quart d'heure ». Donc on se dit, mais l'écrit, c'était quand même...
Bah oui, important.
Hein, on ne fait plus ça trop, hein.
Ben on n'écrit plus du tout.
Non, presque plus.
Donc, alors Marie Dorval, quant à elle, c'était une actrice célèbre. Hein, et au moment où il écrit donc cette lettre, elle est à Rouen, où elle se produit dans un drame historique, Henri III et sa cour. Et donc, elle lui déclare d'ailleurs quelques jours plus tard, « Oh, je les aime tes lettres, presque autant que toi. »
Oui, alors la pauvre Marie Dorval, à un moment donné, elle va sombrer dans l'oubli et... Pour ses propres obsèques, Dumas sera quand même là, parce qu'il écrira un petit document intitulé « La dernière année de Marie Dorval », ça fait quelques pages, tout cela pour contribuer au paiement d'une sépulture à la pauvre Marie Dorval. À l'époque, les artistes ne finissaient pas toujours nantis.
Alors voici un autre grand écrivain français, donc Honoré de Balzac, auteur connu pour « La comédie humaine ». Alors, les amours, tout d'abord épistolaires, entre Balzac et Madame Anxa, est résumé ainsi par Gonzague de Saint-Brice, qui leur consacre
une publication. 18 voilà. Ans d'amour, 16 ans d'attente, 2 ans de bonheur et 6 mois de mariage. Toute une aventure.
Ah donc, mais il va rester de cette belle et tragique histoire plus de 400 lettres quand même, hein, de Balzac. Et alors celles de Madame Anxa, elles ont été détruites.
Oui, enfin, voilà, donc, dommage, hein, parce que c'était une écrivaine, elle aussi, polonaise. Elle parlait le russe, le polonais, le français, l'anglais et l'allemand.
Voilà.
Hein, on ne vous dit pas la culture de ces gens-là quand même.
Alors, Madame Anxa va entrer dans la vie de Balzac grâce à une lettre postée d'Odessa en 1832. Alors, elle est issue de la noblesse polonaise. Ils vont se rencontrer pour la première fois le 25 septembre 1833. C'est-à-dire 2 mois et 2 mois plus tard, Balzac va lui envoyer cette missive.
Dimanche 1er décembre 1833. Mon ange, je viens de lire ta lettre. Oh, j'ai eu envie de tomber à tes genoux. Mon Ève, ma chère épouse, n'aie jamais un second de pensée mélancolique. Oh, tu ne me connais pas. Tant que je vivrai, je serai ton chéri. Je respecterai en moi le cœur que tu as choisi. Je ne m'appartiens pas, il n'y a ni folie, ni sacrifice, non, non, jamais. Oh, ne sois pas ainsi. On ne parle jamais de l'Odanum. J'ai fait voler les dernières épreuves d'Eugénie Grandet et j'ai sauté comme pour aller à toi. La fin de la lettre m'a fait passer les douleurs du commencement. Mon amour, mon cher amour, je serai près de toi dans quelques jours quand tu tiendras ce papier plein d'amour pour toi auquel je voudrais communiquer les battements de mon cœur. Il n'y aura plus que quelques jours. Je vais redoubler de soins, de travail, je me reposerai là-bas. D'ailleurs, je vais m'arranger pour y rester longtemps. Ô mon amour, fais-toi des cieux sereins, car il n'y a dans mon être qu'affection, amour, tendresse et caresse pour toi.
Voilà.
Voilà, voilà.
Une belle lettre d'amour. Alors, pour terminer comment cette émission, nous allons vous passer un court extrait de L'écume des jours de Boris Vian. Auquel, comme l'a signalé tout à l'heure Philippe,
je t'ai précédé.
Nous allons consacrer la prochaine émission. Alors, c'est le passage où Colin court rejoindre Chloé la veille de leurs noces. Alors, donc, c'est le chapitre 16.
Colin courait dans la rue. Ce sera une très belle noce. C'est demain. Demain matin, tous mes amis seront là. Chloé, vos lèvres sont douces, vous avez un teint de fruit, vos yeux voient comme il faut voir et votre corps me fait chaud. Des billes de verre roulaient dans la rue et des enfants venaient derrière. Il faudra des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de mois pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous, sur vos mains, sur vos cheveux, sur vos yeux, sur votre cou. Il y eut trois petites filles. Elles chantaient une ronde, toute ronde, et la dansaient en triangle. Chloé, je voudrais sentir vos seins sur ma poitrine, mes deux mains croisées sur vous, vos bras autour de mon cou, votre tête parfumée dans le creux de mon épaule, et votre peau palpitante, et l'odeur qui vient de vous. Le ciel était clair et bleu, le froid vif encore, mais moins. Les arbres, tout noirs, montraient, au bout de leur bois terni, des bourgeons verts et gonflés. Quand vous êtes loin de moi, je vous vois dans cette robe avec des boutons d'argent. Mais quand la portiez-vous donc ? Non, pas la première fois. C'était le jour du rendez-vous, sous votre manteau lourd et doux, vous l'aviez contre votre corps. Il poussa la porte de la boutique et entra. Je voudrais des masses de fleurs pour Chloé, dit-il. Quand doit-on les lui porter ? Demanda la fleuriste. Elle était jeune et frêle et ses mains rouges. Elle aimait beaucoup les fleurs. Portez-les demain matin et puis portez-en chez moi. Qu'il y en ait plein notre chambre, des lys, des glaïeuls blancs, des roses et des tas d'autres fleurs blanches et mettez aussi, surtout, un gros bouquet de roses rouges.
Bah voilà les roses rouges, symbole de l'amour.
Voilà, et ça me fait une parfaite transition parce que j'ai un tout petit extrait de Vita Sackville-West dont on a parlé. On a dit qu'elle était paysagiste et ça vient bien après cet extrait de L'écume des jours. Voilà, je cite Vita Sackville-West. Les iris sont des plantes très arrangeantes, même si on les maltraite, mais un peu de tendresse et de compréhension ne leur fera pas de mal, au contraire. On peut le vérifier chez les plantes comme chez les humains. Faire preuve de tendresse envers un iris consiste à le faire crever de faim. Une nourriture trop riche lui fait produire des feuilles plutôt que des fleurs. La joie de l'iris, être planté dans un sol misérablement pauvre, mêlé de chaux, de plâtras et même de gravier, un mélange graveleux au pied d'un mur ensoleillé, le plus graveleux et le plus ensoleillé possible. L'iris n'aime que deux choses, le soleil et la pauvreté. Ça vient bien après Boris. Voilà.
Bon, bah très bien, très bien. Donc, bah, pour conclure cette émission, je vous propose d'écouter comment une petite chanson d'amour.
Berita.
Hein, voilà, allez.
La fougue hein, de je te disais hors micro de Catherine Ringer, la fougue et la puissance vocale tempérée par Vanessa Paradis. Bon, c'est bien, on a commencé par Chet Baker, enfin My Funny Valentine joué par Chet Baker. On termine par un peu plus costaud. Hein.
Donc les histoires d'amour, ça finit pas toujours bien, mais des fois ça finit bien quand même.
Hein. Voilà, il faut pas être radical.
Voilà, regardez Cendrillon. Hein, voilà.
Alors un petit rendez-vous avec Boris Vian à venir bientôt, je crois.
Voilà, c'est pour le mois de mars. Voilà. Il sera le mois de son anniversaire.
En plus.
Voilà, et bien, une très bonne fin de mois.
Voilà, absolument, mois de février, on en a dit du bien hein, en début d'émission.
Bah oui. Hein.
C'est un joli mois, il y a plus de lumière.
Alors, à très bientôt, chers auditeurs.
À bientôt.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
Bound to fuck it up.